8h47 avec EA. Comment ça va ce matin?
Ça va très bien, mon cher.
Fraîchement sorti d'Ottawa?
Eh oui. Heureusement, sorti d'Ottawa.
Qu'est-ce qui est plus plate ces temps-ci? C'est Québec ou Ottawa?
Ah, c'est honnêtement, c'est même pas comparable. Puis, ce qui m'a toujours fait capoter, c'est qu'il y a plus de monde à Ottawa qu'à Québec. Mais il y a 10 fois plus de vie à Québec qu'à Ottawa.
Oui, la rue Sparks, c'est tranquille.
Ben oui, tu sais, tu marches au centre-ville la fin de semaine, là, tu croirais que c'est une ville fantôme. Moi, je me demande tout le temps, sont où le monde?
Ils sont où le monde? C'est vrai, ça. J'ai déjà travaillé à Ottawa 2 ans. C'est vrai, c'est complètement désert. C'est une ville qui... Moi, j'allais dans le marché bail. C'est sûr que ça soigne un peu plus, mais le marché bail, à un moment donné, quand t'as fait le tour, ça prend 10 minutes, là.
Ouais, ben, puis surtout que maintenant, le marché bail, itinérance, toxicomanie, etc.
Ah ouais?
Ah oui, c'est un autre game, là.
À 30 ans, je peux pas aller, Marc.
Ouais.
Ben, plus que ça, Yashin jouait. Donc, Dan fait ça sur Internet, Yashin. Ben je pense que lui-ci était espionné par le KGB.
Mais tu te souviens ce que Marc...
Non, il était espionné par le KGB, lui. C'est un peu un PSPP du hockey, peut-être. Non?
Mais tu te souviens de ce que Marc Simoneau disait des gens qui habitent à l'Ontario, hein? Des femmes aux cheveux courts puis au bas blanc.
Ah ouais, mais lui, il reste au Québec.
Ben oui, nationaliste. Moi, je suis du côté Gatineau. J'aime tu payes tes impôts. Ben
Tu payes tes impôts. D'ailleurs, parlons-en des impôts. Est-ce que les impôts vont à la bonne place? Les politiques familiales, vous avez fait une étude concernant... je vais y aller droit au but. La question qu'on se pose, c'est comment qu'on peut faire plus d'enfants? Qu'est-ce qui pourrait nous inciter à faire davantage d'enfants? Parce que si ça continue comme ça, ben, le Québec est appelé à s'éteindre tranquillement. Et si on fait trop confiance à l'immigration, ben, je pense que c'est pas nécessairement la solution. Ça prend un bon équilibre. Tandis quoi? Qu'est-ce que dit l'étude?
Ben, d'abord, ça dit que le Québec a un cru historique en matière de fécondité.
1,33.
Exactement, ouais. 1,33. Et d'ailleurs, en 2024, pour la première fois de mémoire récente, plus de morts que de naissances.
C'est quand même beaucoup, ça.
C'est quand même beaucoup.
Ça fesse.
D'ailleurs, on a sondé avec les Québécois sur cette question-là, parce qu'on en parle, on commence à en parler un petit peu. Mais moi, je me demandais où est-ce que la population se situait, tu sais. Puis, on demandait, savez-vous l'état? Pensez-vous qu'il y a plus de naissances que de morts, plus de morts que de naissances, ou à peu près kiff-kiff? Puis, en fait, il y a juste 30 % des gens qui le savaient. 50 % des gens qui disaient juste « je le sais pas ». Fait qu'on n'a pas tant parlé que ça, tu sais. Cela dit, quand on posait la question, pensez-vous que ça va avoir des impacts positifs ou négatifs sur les finances publiques, la culture, l'accès aux services, la population des régions? Sur toutes ces questions-là, c'était entre 55 et 65 % des gens qui disaient « ouais, je pense que ça va être négatif ». Fait que tu sais, il y a quand même une espèce de prise de conscience. Maintenant, quand on parle des causes, il y en a plusieurs. Hein? C'est comme ces espèces de phénomènes-là qu'il y a toutes sortes de choses qui en sont la cause. Un premier, c'est, on en parle souvent, puis à juste titre, la question du coût de la vie. Et je pense plus encore la question de l'incertitude. Je regardais un peu les études universitaires qui ont été faites sur le lien entre l'économie et la fécondité. Quand tu regardes, il y a le fait, est-ce qu'on est capable d'arriver ou pas, mais il y a aussi toute la question de quand tu as une période de crise, là, vraiment. Quand tu as, par exemple, plus de chômage, quand tu as de l'incertitude que tu dis, hey, je vais-tu avoir encore mon emploi dans 1 an, dans 2 ans? Puis d'ailleurs, c'est pour ça que quand on regarde historiquement la fécondité au Québec, le dernier plancher qu'on avait touché, là, à 1,36 dans les années 80, c'était après la grosse récession des années 80. Après, tu regardes, après 2008, ça commence à baisser un petit peu. Puis après le COVID, là, ça baisse encore plus. Fait qu'il y a ce lien-là aussi, hein, avec des périodes vraiment d'incertitude. Fait que ça, c'est une chose. Il y a évidemment la conciliation travail-famille, qui est toujours un défi dont on parle souvent. Puis l'autre chose qui, moi, m'interpelle beaucoup en raison de mon âge, c'est toute la question de c'est quoi être un jeune aujourd'hui? Puis est-ce qu'on est capable d'atteindre le même niveau de vie, le même niveau dans la vie que nos parents? Puis ça, j'ai regardé avec les statistiques de StatCan, l'état des jeunes Québécois, OK? Les 25 à 29. C'est ceux qui sont à l'âge où on commence à se poser cette question-là. Puis trois indicateurs qui ont attiré mon attention. Rester chez ses parents, ça, c'est en hausse depuis plusieurs années. Hein? Les jeunes de 25 à 29
ans. Et les chiffres sont très importants.
Absolument. Absolument.
Ils sont importants.
Ah, oui.
Il y a Globe and Mail a fait un article là-dessus sur les tanguis, ce qu'on appelle les tanguis.
Mais c'est pas toujours par choix, hein? C'est ça qu'il faut rappeler.
Non. Ça, il y a ça. J'ai jamais dit ça.
Deuxième chose, c'est la question de la durée des études. C'est pas mauvais, évidemment, que les gens étudient, mais plus tu étudies longtemps, plus tu arrives tard sur le marché du travail. Fait que ça veut dire à partir de quel moment tu commences ta vie active. Ça aussi, ça a un impact.
Tu rembourses tes dettes d'étudiant, tu as ta blonde, tu t'établis, elle aussi veut travailler. Là, on parle des hommes, parce qu'on a des hommes autour de la table, là, mais vous pouvez renverser si vous voulez. Les genres, là, peu importe. Là. Mais tu sais, tu veux t'établir, donc à ce moment-là, tu es rendu à 32, 33 ans. Là.
Ben c'est ça, il y a ça. Et l'autre chose, c'est les 25 à 29 qui vivent avec un conjoint-conjointe. Ça aussi, c'est en baisse. On est à moins de la moitié, alors qu'avant, c'était au-dessus pas mal.
Chacun garde son logement.
C'est ça. Ou s'ils sont encore chez papa-maman, ben c'est sûr qu'ils vont peut-être pas vivre ensemble. Mais tout ça pour dire, il y a comme
Vous
n'avez
pas considéré les garderies. Moi, je trouve ça important, les garderies. Je suis pas là pour prôner le système des garderies, pas en tout. Le système des garderies, c'est une catastrophe, ce qu'on a mis sur pied. Mais il n'en demeure pas moins que pour une femme, parce que toujours elle qui tranche au final, c'est sa décision. Je comprends, c'est une décision de couple, là, mais si la femme ne veut pas avoir d'enfant, pas mal elle qui bosse, là. Elle se pose la question. Moi, je veux pas perdre ma job. Je veux retourner à mon travail. Et j'aime mon travail, mais je vais aimer ma famille aussi. Mm-hmm. Ça me prend quelqu'un pour me baquer. Ça me prend une garderie. Il n'y a pas de place!
Ben oui.
Ça compte, ça.
Ah, mais je suis bien d'accord.
Mais
d'ailleurs...
tu l'as pas considéré, il me semble, dans l'étude, ça. Mais... il me semble que ça fait partie de l'angoisse de la famille, de ne pas avoir de place. Tant qu'à ça, on ne fera pas d'enfant, on n'a pas de place.
Cela dit, là-dessus...
L'avez-vous considéré, ça?
Tu me permettras de nuancer un peu sur ce point-là. Parce que quand on regarde vraiment les indicateurs politiques, économiques qui vont avoir une influence sur la natalité, les transferts en argent, ce que tu vas recevoir, notamment les fameux bonus, là, quand tu fais un enfant, ça, des études qui vont te montrer un impact, il y en a pas mal. Puis même, tu vois qu'il y a un petit bump après le RQAP, par exemple, qui permet de mieux littéralement concilier en ayant du temps rémunéré après la naissance de l'enfant. Mais sur les garderies, particulièrement les garderies du Québec, il n'y a pas d'études qui examinent ou qui établissent un lien avec la fécondité. Fait que c'est pour ça qu'on fait un petit peu
plus
attention.
Mais à suivre.
À suivre, absolument. Puis d'ailleurs, sur le réseau
c'est
des garderies...
C'est pas inintéressant
non,
ce que j'allègue.
Mais ce que tu dis, c'est aussi vrai. Puis d'ailleurs, je pense que notre système un peu très étatisé de garderie, hein. Je pense qu'il faut se rappeler aussi que ça fait 25 ans que ça existe.
Trop.
Et jamais il n'a répondu à la demande. Hein?
Et jamais il y a eu de remise en question. Nous autres, on crée de quoi? On laisse aller.
C'est ça.
Comme les cégeps. On l'a créé, on laisse aller. C'est là, c'est ça qui est ça. Le modèle québécois a quelque chose d'indécrottable, qu'il est incontestable et indiscutable. Il faut le reconsidérer.
Absolument.
Il faut redessiner ce modèle-là. Mais qui est ultra syndiqué. On est pogné, on a une camisole de force aussi. Là. On est pogné avec des syndicats et avec des structures épouvantables. Les CPE, là. Tu regarderas des organigrammes de gros CPE à Montréal. Là. C'est quasiment une compagnie. C'est un CA, t'as un board. C'est lourd, là, ce qu'on a créé. Là. Tu peux pas le démanteler comme ça. Là.
Non,
on est pogné avec ça. Là.
C'est vrai. Puis je pense qu'à un moment donné, ça va être une des questions qu'il va falloir se poser. C'est drôle parce que je suis en train de travailler une étude là-dessus. Bon. On en reparlera. Mais sur la question de, est-ce qu'on peut avoir une plus grosse pluralité dans les modes de garde? T'sais, est-ce qu'on peut arrêter de juste tout centraliser dans le CPE qui regroupe d'ailleurs seulement un tiers des enfants qui ont une place en garderie? Et donc, c'est pas vrai que c'est tout le monde qui a une place en garderie qui est en CPE. Puis surtout, plus tu essayes d'agrandir le réseau, plus tu as un enjeu au niveau de la qualité puis de la proportion d'éducatrices parce que ça suit pas. Ils ont de la misère à attirer des gens. Fait que tu as comme un espèce
de... Ils recrutent et ils engagent maintenant des gens non formés.
Ben c'est
comme
ça.
Les profs.
C'est ça. Fait que t'as comme une espèce de tension hein, entre la qualité et la quantité. Pis j'ai l'impression qu'on est un peu pris entre tout ça. Mais si on revient à la question de la fécondité, moi, je pense que il faut se poser cette question-là. Là. Puis je trouve que c'est un beau développement quand même que dans les dernières semaines, derniers mois, il y a des gens d'à peu près toutes les parties qui ont commencé à en parler. Hein. On a vu Marois Risky qui a fait une sortie là-dessus.
Magnifique.
Karianne Bourassa aussi de la CAQ qui en parlait depuis longtemps.
Oui, bonne Karianne.
Paul Saint-Pierre Plamondon qui en a parlé avec sa candidate aussi qui est spécialiste des questions de la famille. Monsieur Duhaime qui a embarqué sur la question. Dans le fond, il y a juste Québec solidaire qui veut pas parler de ça, pour qui c'est un espèce de tabou idéologique puis qu'on n'aurait pas le droit de parler de ça.
Mais c'est parce qu'il y a des freaks dans la gang qui veulent pas d'enfants à cause du climat.
Ben c'est ça, mais rendu
les autres, ils veulent pas contredire la gang de flyers qui les suivent, là.
Regarde, moi, ça me dérange pas s'il y a des gens qui veulent pas avoir d'enfants. Mais est-ce qu'on peut ne pas mépriser ceux qui en ont et ceux qui en veulent? Puis c'est pour ça que des fois, tu sais, bon, moi, je pose souvent mes interventions sur les réseaux sociaux puis tout. Puis quand je vois l'espèce de condescendance de gens de gauche, ils sont comme, ah ben là, vous allez pas payer des gens qui vont avoir des enfants. Ben, les allocations familiales, il y en a toujours eu. Ça coûte de l'argent d'avoir des enfants. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit de soutenir les familles? Pourquoi c'est devenu une espèce de tabou puis que c'est devenu un gros mot aujourd'hui de dire « Hey, je pense que les familles ont besoin d'un coup de pouce. » Il fut un temps où c'était comme le pain puis le beurre des politiciens. Puis j'espère qu'on va y revenir. Je comprends pas cette espèce d'aversion-là aujourd'hui qui est clairement idéologique. T'sais. Parce que c'est des gens qui n'ont pas de problème avec les allocations en général. Mais là, si c'est pour aider les familles, c'est comme si ça devient « Oh là là, est-ce que c'est dangereux? Est-ce que c'est réactionnaire? » T'sais, franchement, voyons donc. Moi, ça me jette un peu à terre.
La gauche extrême qui veut démembrer la société, puis qui s'est attaquée au genre pendant un bout. Là, de plus en plus, tu vois des entrevues avec des jeunes qui ont eu des opérations de changement de sexe, puis qui se disent « Ouais, c'est peut-être pas une bonne idée, finalement, j'aimerais ça me détransitionner. » Il y a comme un retour vers ce que j'appelle le centre. Tu sais, il y a eu un discours beaucoup plus extrême et délirant, mais là, il y a comme un éveil que, ouais, OK. Le Walkeroni, ouais, peut-être pas tous les jours, là. On va revenir vers le centre. Je trouve qu'il y a un certain retour à une forme de logique. Puis c'est justement, c'est bien contribué par une Marois Risky de ce monde.
Ben oui, ben oui. Puis c'est juste qu'à un moment donné, il y a des limites à quel point tu peux étirer l'élastique aussi. Tu
sais, de briser la famille. J'ai jamais dit famille traditionnelle. By the way, il est 8h58, c'est pas ça que j'ai dit. Deux gays, deux lesbiennes qui adoptent ou l'insémination. Extraordinaire. J'en connais, là. Ça fait des familles aimantes extraordinaires. On est en 2026. J'ai aucun problème avec ça. Mais repensons à un moment donné le Québec si on veut que le Québec vive. Si on y tient. Si on n'y tient pas, c'est autre chose.
Ben oui, puis, tu sais, on pourrait en parler plus largement aussi. T'sais, l'institution familiale, au final, c'est quand même la base de la solidarité.
C'est la base de la société.
Puis si on veut pas être dans une société qui est bureaucratisée à outrance, où tout ce qu'on a, ça passe soit par le marché, soit par l'État, à un moment donné, il faut avoir cette solidarité-là qui est très incarnée puis qui est très proche aussi. Mm. On s'entend que le lien que tu as avec ton père, ta mère, ton frère, ta sœur, c'est bien plus fort, puis bien plus solide, puis l'aide, puis l'amour qui vient avec ça, t'as jamais une
c'est
société
la famille,
d'État
la base
qui va remplacer ça.
N'en déplaise à plusieurs. Merci beaucoup d'être passé. Bon voyage à Québec. Donc, tu peux t'amuser avant de retourner au goulag.
Oui, c'est ça.